Question d'islam par Alib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons des relations entre la France et l'islam, l'islam de France, l'islam en France, l'islam gallican. On a même entendu l'islam dans France. Pour mettre un peu d'ordre dans ce fatras idéal, voire sémantique, j'ai plaisir à recevoir aujourd'hui Dora Mamri Chambi. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Dora Mamri Chambi. Vous êtes docteur en islamologie, vous êtes chercheuse, maintenant nous féminisons les titres, hein, donc, vous êtes chercheuse associée au groupe Société, Religion et Laïcité EPHE-CNRS, donc c'est un groupe conjoint à l'École pratique des hautes études et au CNRS, et vous venez nous parler effectivement de cette histoire contemporaine de l'islam et de la République. J'ai lu dans la préface écrite par le regretté Mohamed Harkoun, lorsqu'il a dirigé l'ouvrage collectif de l'histoire de l'islam et des musulmans en France depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et la préface est de Jean Moutapa, c'est que l'islam était intrinsèque à la France avant même que la France fût France. Donc nous n'allons pas remonter jusqu'aux temps immémoriaux. Vous, votre travail commence en gros à la fin du 19e siècle. Quel est le cadre, le contexte historico-social de votre recherche ?
Alors je travaille sur l'islam en France à partir du 19e siècle et sur la longue durée. Donc à peu près au milieu du 19e siècle à nos jours, et le contexte de ma recherche s'articule autour de la notion d'islam et la manière dont ce culte fut appréhendé durant la période coloniale et bien entendu durant la période postcoloniale jusqu'à nos jours.
Probablement ou sûrement c'est vous qui allez nous le dire. Si vous partez du milieu du 19e siècle, c'est parce qu'il y a donc la colonisation de l'Algérie. Y a-t-il d'autres colonies ? Donc le fait islamique est devenu cette fois-ci une affaire française. Et pourquoi avez-vous choisi ces repères historiques ?
Alors, étant donné que j'ai travaillé énormément sur la construction des lieux de culte en France, il m'a semblé intéressant de commencer à partir de 1846, lorsque la Société orientale avait eu l'idée de créer un institut musulman ainsi qu'un collège musulman à Marseille et à Paris. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai daté à partir de 1840 à peu près mon étude. Et puis je me suis beaucoup intéressée au premier musulman député à la Chambre des députés, le docteur Grenier de Pontarlier, député du Doubs, qui s'est converti à l'islam et qui a fait sienne finalement les idées de l'islam en représentant des Franc-Comtois. Donc c'était assez intéressant de commencer par cette partie de l'histoire et qui m'a permis de retracer finalement l'évolution de l'islam en France durant près d'un siècle.
Ah, vous avez raison, Dora Mamri Chambi, le député Philippe Grenier mérite à lui seul qu'on lui consacre une émission. Si vous voulez, vous pouvez venir nous en parler. Quelle était cette idée du collège musulman, enfin, en toute rigueur, on aurait dû dire islamique, parce que la chose est islamique et l'homme est musulman. De Marseille, ce collège a-t-il vu le jour? Non. Y a-t-il eu des difficultés? Et comment, petit à petit, sommes-nous arrivés donc à des institutions islamiques, et notamment la Grande Mosquée de Paris?
Alors, cette initiative n'a pas vu le jour parce que c'était le fait d'une société qui agissait d'ailleurs pour son compte et en vue de pacifier l'Algérie à l'époque et insuffler finalement les germes de la civilisation française aux indigènes. Et finalement, cette initiative a été battue en brèche par les institutions elles-mêmes, disant que les musulmans n'avaient pas demandé une telle initiative. Et donc, donc cette évolution, enfin, je date à partir de là les premières demandes réelles, en tout cas de construction de lieux de culte dans l'espace métropolitain. Mais il y a eu une série de tentatives qui ont eu lieu en 1895 avec le sultan Abdelhamid II, donc qui régnait sur la sublime porte. Il y a eu également des tentatives l'année de la fabrique, finalement, de la loi de 1905, mais en raison de difficultés et des débats relatifs à la loi, ce projet a été reporté. Je dirais que l'initiative la plus concrète en vue de créer un institut musulman a eu lieu en 1916, au moment de la Première Guerre mondiale. Alors, sous l'égide de Bourdari, un comité islamophile a souhaité voir se créer cet institut musulman. Et donc, c'était un peu les prémices de la mosquée de Paris. Normalement, cet institut aurait dû être situé non loin de la Madeleine, rue de la Ville-l'Évêque, dans le 8e arrondissement. Et finalement, il a fallu attendre la fin de la guerre pour voir les bribes, en tout cas, de la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut musulman de la Grande Mosquée de Paris.
Et cet institut qui aurait dû voir le jour rue de la Ville-l'Évêque dans le 8e, et c'était... Les difficultés étaient aussi d'ordre foncier, on devait acheter du terrain, il y avait un problème du cadastre ou pour d'autres raisons.
Je dirais que c'était un problème financier en réalité, mais finalement on s'est servi de ce projet de 1900, enfin qui a commencé en 1906 et en 1916 avec la création, en tout cas, de l'institut, enfin de la société de droit musulman, la société des Habous des lieux saints de l'islam, en 1916, qui a été enregistrée à la Mahkama Hanafite d'Alger. L'idée était de se servir de cette association pour pouvoir continuer ce projet de 1916.
Alors on va expliquer tous ces mots-là. La société des Habous, vous allez nous le dire si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont les Habous? Et la Mahkama, c'est le tribunal, la cour d'Alger, donc Mahkama. Et Hanafite, c'est selon le rite ou l'école juridique. Hanafite, une des quatre grandes écoles juridiques dans l'obédience sunnite.
Oui,
mais maintenant, revenons au mot Habous pour que nos auditeurs le comprennent davantage.
Alors, le mot Habous, c'est finalement une formule juridique, pieuse, musulmane, qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle trust en anglais. Mais c'est un bien de main morte. Et les Habous sont inaliénables, c'est-à-dire que ce sont des biens inaliénables donnés à la communauté. Et là, en l'occurrence, la société des Habous dont je parlais, c'était pour pouvoir donner finalement à une société la propriété inaliénable de biens situés à l'époque à la Mecque et à Médine.
Et lorsqu'on dit que ce sont des biens de main morte, ça sous-entend que lorsque quelqu'un décède et qu'il ne laisse pas d'héritier, ben ces biens vont à la dite société.
À la dite société, tout à fait.
Très bien. Donc, et alors c'est parfois on traduit le mot, parfois on ne le traduit pas. Quand on parle de la société des Habous, des lieux saints de l'islam, le mot Habous est généralement rendu par les biens de main morte. Donc, reprenons, à la cour d'Alger ou au tribunal d'Alger, à la Mahkama d'Alger, deux rites hanafites, parce qu'il y en a d'autres rites aussi, il y a eu le dépôt des statuts de la société. Moi, j'ai toujours pensé que c'était 1917, mais vous nous dites 1916.
Les statuts ont été rédigés en 1916 et enregistrés en 1917. Vous avez raison.
Voilà. Non, c'est que j'avais un doute, mais nous n'allons pas pinailler sur une année, mais devant l'historienne que vous êtes aussi, c'est bien de préciser les points. Et alors, cette société avait comme charge, avec les biens qu'elle récolte, de procéder à la construction de l'institut, on aurait dû dire islamique, mais l'institut musulman de la mosquée de Paris, ce qui sous-entend qu'il doit y avoir la mosquée de Paris.
Alors au départ, cette société, vous avez raison, créée, enregistrée en 1917, en fait, en réalité, c'était pour que la délégation menée par le premier recteur de la mosquée de Paris, Sirhaddour Ben Rabrit, puisse se porter acquéreur, acquéreuse, finalement, de biens d'hôtellerie à la Mecque et à Médine, dans le cadre qui précédait les accords Sykes-Picot pour pouvoir dépecer un peu l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'était des alliances entre les Britanniques, bien sûr la France, et les Arabes, notamment dans la région du Hijaz, pour permettre aux musulmans des colonies de pouvoir se rendre librement dans les lieux saints de l'islam. C'est la raison pour laquelle on l'appelait les lieux saints de l'islam. Mais cette société... également, comme elle était enregistrée, légalement enregistrée, selon le droit musulman, a été utilisée également pour pouvoir créer, finalement, les bases d'un institut musulman à Paris. Alors, on l'a appelé institut musulman. C'est vrai que ça aurait dû être un institut islamique, mais les concepteurs du projet de l'époque insistaient pour que ça soit un institut musulman. Peut-être ça rappelait également la France puissance musulmane d'Europe. Je ne sais pas. En revanche, cette mosquée a vu le jour assez difficilement, dans la mesure où l'appellation d'institut a été compliquée. Lyoté n'était pas d'accord avec cette appellation d'institut parce que le but était d'encadrer le culte musulman. Et avec un institut, les musulmans ne seraient pas forcément contrôlable. D'accord. Donc ça a posé quelques soucis. Mais si je reviens justement à cette création de mosquée, c'est en 1920 finalement que c'est devenu une association de la loi 1901 pour que elle puisse recevoir des fonds de la Chambre des députés. À l'époque, ça s'élevait à 500 000 francs. Donc de l'époque.
Et on a une dotation de la Chambre des députés qu'on donnait à cette association loi 1901. Mais alors quel est le lien ou pas avec la société des Habous?
À la société des Habous, étant donné que c'était une association de droit musulman, en vertu de l'article 2 de la loi 1905, l'État ne pouvait pas donner de l'argent à une association qui n'était pas régulièrement inscrite sous le cadre de la loi de 1901. Et c'est la raison pour laquelle on a imaginé un principe un peu dérogatoire. C'est-à-dire la loi d'août 1920, menée par le rapporteur Hériot à l'époque, hein, un des concepteurs de la loi de 1905, a demandé à Qaddour Ben Rabrit d'enregistrer les statuts de cette association à la préfecture d'Alger et de pouvoir se constituer en association de loi 1901. Et voilà, donc pour pouvoir recevoir les subsides étatiques. Bien entendu, les 500 000 francs n'étaient pas du tout suffisants. Le projet a bénéficié de l'aide bienveillante des hôpitaux de Paris. Le terrain, en tout cas qui se situe aujourd'hui dans le 5e arrondissement, en est la manifestation. Et Qaddour Ben Rabrit a également solliciter les musulmans de l'Empire colonial français, c'est-à-dire les musulmans d'Afrique, mais également les musulmans d'Asie, à verser leur obol pour la création de cet institut.
Alors j'ai toujours appris, mais là c'est intéressant avec vous de préciser encore une fois les choses, c'est qu'il avait demandé aux Sénégalais, aux Maliens, aux Soudanais, aux Libyens, aux Marocains, Algériens et Tunisiens bien entendu. Les Marocains et Tunisiens étaient sous protectorat, les Algériens étaient considérés comme sujets de la République, en tout cas, j'allais dire français, mais plutôt sujet. Et vous me dites qu'il a demandé aussi des aides jusqu'en Asie.
Oui. D'accord. Alors, il a demandé des aides jusqu'en Asie. Bon, j'ai pu avoir accès à des archives en Algérie où j'ai pu voir les souscriptions en tout cas en faveur de la mosquée de Paris, dans chaque pays. Et j'ai été très étonnée de voir que les Asiatiques avaient aussi versé leur obol à la création de cet institut. Et alors moi, j'aime l'appeler l'impôt Ben Rabrit. En fait, c'était une souscription, mais qui était une forme d'impôt un peu dissimulé. Voilà.
Oui, même si l'impôt doit être général et impersonnel, là, c'est un abus de langage, d'accord. Bon, et finalement, on est en 1920. La pierre angulaire a été posée en 1922.
Alors, la première pierre a été posée en mars 1922. Donc, quand on regarde les photos, en tout cas, de cette pose de la première pierre, il y a eu plusieurs poses de la première pierre avec des délégations venues d'Afrique, venues d'Algérie, venues de tout l'empire colonial et avec, bien sûr, des officiels. Donc, c'est Qadour Ben Rabrit, accompagné d'officiels et d'invités qui a posé cette première pierre en 1922.
Un mot peut-être sur l'homme, c'est un personnage en couleur et aussi un diplomate, parce que il aurait assisté, pris part aux négociations et aux accords de Sykes-Picot.
Tout à fait.
Aussi. D'accord.
Tout à fait. Alors, c'était un éminent diplomate qui a commencé comme Tordjman, fin du 19e siècle, début 20e. Il a été très vite repéré par les autorités coloniales et donc a gravi les échelons de la diplomatie française jusqu'à être... le premier conseiller du roi du Maroc, et il a été également l'artisan du traité de Fès.
Oui.
Ça a été un homme qui a su vaillamment franchir les difficultés, en tout cas de son temps, et s'ériger au-delà du sujet algérien lambda, si je dirais. C'est-à-dire qu'il a su franchir les difficultés pour pouvoir s'imposer et régner, en tout cas au sommet du minaret de l'islam en France.
Il est Tordjman, autrement dit, on peut dire interprète à la cour du roi du Maroc, mais il est né à Sidi Bel Abbès en Algérie. Voilà, après avoir fait des études à la fois à Tlemcen et à Tanger, et c'est comme ça qu'il a gravi tous ces échelons pour se retrouver au sommet du minaret, comme vous dites si bien. Si on poursuit un peu comme ça la fresque historique, on arrive à 1926, donc il a fallu 4 ans pour construire la mosquée de Paris et toutes les annexes autour.
Oui, il a fallu 4 ans parce que le projet était quand même assez pharaonique et il a fallu recouvrer justement les taxes dont je vous parlais dans l'empire colonial, et ce n'a pas été chose aisée. Mais finalement, la conclusion, on va dire, du projet a eu lieu en juillet 1926, au moment de la fête nationale d'ailleurs, l'Institut musulman de la mosquée de Paris a été inauguré en grande pompe avec donc le roi du Maroc qui s'était déplacé spécialement pour cette occasion. Il y a eu plusieurs inaugurations justement de cette mosquée, mais en 1926 on a pu voir émerger la mosquée de Paris comme seule mosquée finalement dans la métropole, même si une mosquée à l'île de la Réunion par exemple était déjà présente, ou d'autres mosquées avaient émergé.
Et en métropole il y a ce fameux pavillon lors de l'exposition universelle qu'on avait démonté, qui se trouve à Nogent, et on ne parle pas des vestiges des autres mosquées qui, elle, date de l'époque de la présence sarrasine, notamment à Narbonne, à Carcassonne, un peu dans Septimanie, comme on
dit. À Marseille.
Et à Marseille aussi, à Nîmes. Nous nous rappelons tous de cette inauguration en grande pompe et la parole, du maréchal Lyautey quand il dit « Voilà, que fût-ce du minaret de la Grande Mosquée de Paris une prière, dans le ciel d'Île-de-France et les deux tours de Notre-Dame ne seraient point jalouses.
Alors on l'attribue à tort à Lyoté.
C'est Hériot
C'est Fleurot. Enfin, en fait, c'est un membre du conseil municipal de Paris et souvent on l'attribue à tort à Lyoté. Moi-même, j'en ai fait l'expérience et après avoir vérifié finalement dans la plaquette inaugurale de la mosquée de Paris que Lyoté n'avait pas prononcé ces termes, mais tous les historiens ayant travaillé un peu de près ou de loin sur la mosquée de Paris, on pensait que c'était le maréchal Lyoté qui avait prononcé ces mots.
Et donc c'est ce conseiller de Paris qui a pris la parole, lui aussi c'était prévu dans le protocole.
C'était prévu dans le protocole, il y a tout un livret c'était en 1922 d'ailleurs, ce livret, au moment de la pose de la première pierre. Et il y avait énormément de discours d'officiels qui avaient été invités pour cette occasion.
Alors, cher Donald Mabrouk, cette émission sert aussi à rectifier des choses qui sont des erreurs bien ancrées, considérées comme une vérité, et c'est le travail des historiens de les rétablir. Mais la parole a été dite, sauf que ce n'est pas par le maréchal Lyoté.
Voilà, tout à fait.
Nous le dirons, je pense, à quelques-uns, quand je les rencontrerai, je leur ferai savoir.
France Culture, Question d'Islam, Khaled Bencher.
Nous parlons aujourd'hui des liens entre la religion islamique, l'islam, qui soit écrit avec I majuscule renvoyant à la civilisation, écrit avec I minuscule renvoyant à la religion, et la France comme nation et la France comme république. Après donc cette inauguration, l'idée c'est que la Grande Mosquée de Paris et l'institut qui lui est attenant et il en fait partie, quel est leur rôle aux deux institutions? La Mosquée de Paris c'est un lieu de culte et l'institut musulman de la Mosquée de Paris est un lieu d'étude.
Ah, vous mettez le doigt sur un sujet un peu épineux. C'est-à-dire que oui, on a voulu créer, justement, pour pouvoir justifier le terme d'institut, on a mis une bibliothèque, une petite bibliothèque pour ceux qui connaissent la mosquée de Paris, pour pouvoir justifier le terme d'institut. Et ça a été justement après la période coloniale, peut-être un peu avant, au moment du général de Gaulle, une intention de séparer concrètement l'institut de la mosquée. Les choses ne se sont pas passées comme celle-ci, parce que ça aurait signifié finalement une association de loi 1901 et une association de la loi 1905. Donc les directeurs, en tout cas successifs de l'époque, n'ont pas souhaité qu'il y ait une séparation.
De l'Institut, parce que la mosquée était dirigée par des recteurs.
C'est ça. Alors, je vais également apporter une petite précision. Le terme recteur est arrivé avec Hamza Boubakr. À l'époque, les chefs finalement de la mosquée de Paris s'appelaient directeurs. Donc Qadour Ben Rabrit, son neveu Ahmed Ben Rabrit était qualifié de directeur
de la grande mosquée de Paris et en même temps de l'Institut.
Et Géré également était directeur, président de l'association qui gérait cette mosquée. Donc il y avait une confusion finalement des rôles entre la présidence de l'association et la direction de l'Institut.
Et vous qui avez longuement travaillé sur ça, pouvez-vous nous confirmer que selon les statuts de la société des Habous, le président de la société est ipso facto directeur à l'époque, après Hamza Boubakr, recteur.
Oui. Alors, jusqu'à la période 1982-87. Mais obligatoirement, la direction de l'Institut allait de pair avec la présidence de l'association, mais pour des raisons tout à fait stratégiques. On était dans une période à partir des années 20, on a vu émerger quand même une base revendicative avec Messaliadj et son étoile nord-africaine. On a vu également venir le cercle de l'éducation à Paris, donc on appelle les islahistes, les réformistes musulmans, et des revendications nationalistes, en tout cas jusqu'aux années 60. Donc il était impératif qu'une seule personne soit à la tête de cette institution. Et c'était une personne finalement agréée par les autorités politiques de l'époque. Ce qui pose aussi une question quant à l'investissement de l'État dans les affaires du culte et notamment dans une association de la loi 1901.
Et s'il fallait qu'il y eût l'agrément des autorités politiques, comment peut-on percevoir ça avec la loi de séparation?
C'est difficilement perceptible, mais c'était justifié par un principe général du droit qui s'appelle l'ordre public, qui était, comme on était dans une période de difficultés en tout cas pour la France, pour le maintien de la paix dans les colonies et pour pouvoir battre en brèche ces mouvements nationalistes, l'État se faisait, en tout cas avait pour mission de choisir les agents du culte, aussi bien dans les colonies qu'en France. Et le problème, c'est que alors la laïcité n'était pas appliquée dans les colonies, mais là, on était en métropole. Donc, ça pose une vraie question relative à la laïcité et l'investissement de l'État dans les cultes. D'ailleurs, je rappelle que l'État doit connaître toutes les religions, mais n'en reconnaître aucune, n'en privilégier aucune. Et donc, c'est la raison pour laquelle je parle de néo-gallicanisme. Cette intervention étatique en raison d'un ordre public et une régulation institutionnelle que je qualifierais en anglais de hard regulation, c'est-à-dire de régulation poussée en fonction des périodes de l'histoire.
Ce qu'on pourrait rendre par l'interventionnisme de l'administration. Ce n'est pas que de l'intervention, mais c'est l'interventionnisme. L'Algérie était composée de trois départements, les fameux départements outre-méditerranée. Donc on est encore en territoire de la République et le principe de la laïcité n'étant pas appliqué, la loi 1905 n'était pas appliquée. Nous dit-on toujours que le président de l'association des oulémas est venu requérir auprès du Conseil d'État pour que la loi fût appliquée. Il a été débouté. Il y a aussi une autre parole, mais maintenant je commence à être extrêmement prudent avec vous, Dora Mamri Chambi, où ce président de l'association des oulémas algériens, Abdelhamid Ben Badis, disait, bon, maintenant, après être revenu bredouille, alors que nous sommes venus requérir auprès du Conseil d'État pour que la loi de 1905, la loi de séparation, puisse être appliquée dans nos départements, donc dans l'Algérie, sous férule coloniale. Maintenant qu'on est débouté, il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu qui, dans un État qui se veut laïque, c'est quand même un peu cocasse. Et ça a été écrit dans le Météore, qui est l'organe central de l'association des oulémas. Alors, est-ce que cette parole ou cet épisode est aussi attesté historiquement ou c'est une construction a posteriori?
Non, c'est à ma connaissance, en tout cas, je voudrais pas trop m'avancer, mais c'est attesté historiquement. De toute façon, alors pour paraphraser des auteurs tels que Franck Frégosi, la laïcité n'était pas un bon produit d'exportation. Donc, les demandes continuelles, justement, des réformistes algériens de voir appliquer la laïcité furent reçues négativement en raison du fait que l'islam, le culte musulman devait demeurer sous contrôle. Et d'ailleurs, pour pouvoir un peu rejoindre ce que vous dites, les imams dans les mosquées en Algérie comme en France étaient savamment, en tout cas, étroitement liés au choix des gouvernements, du gouvernement de la personne de Qadour Ben Rabrid dont je parlais, qui veillait à valider des imams. Et en fait, il y a un épisode qui me revient. Des réformistes étaient venus à la mosquée de Paris, avaient demandé une salle pour pouvoir prêcher. Donc, ils ont eu une fin de non-recevoir de la part du premier recteur de la mosquée.
Dont l'appellation recteur est a posteriori. Puisqu'il s'appelait
le directeur.
Et comment la vie était-elle? Cette fin de non-recevoir, c'est parce qu'il voulait accéder aux demandes du gouvernement? Était-il de ce point de vue docile ou simplement parce qu'il se méfiait des idées un peu subversives de ces réformistes?
Alors, je dirais un peu de tout. Il se méfiait des idées subversives de ces réformistes, mais comme je le disais, il voulait régner, en tout cas, il voulait être au sommet, justement, du minaret de l'islam en France. Donc, tout devait passer par son autorité. Et il était assez jaloux de son autorité, c'est-à-dire que à chaque demande de création de mosquée en France, pas seulement à Paris, en province, il devait donner son aval. Et à partir du moment où ça sortait de son cadre, en tout cas de référence, il prévenait, et ça c'est non correspondance dans les archives, il prévenait les autorités de l'époque afin de dire oui, telle personne n'est pas agréée par moi pour pouvoir créer ce lieu de culte. Donc, je dirais que il a contribué, si je peux faire un anachronisme, à créer finalement l'ancêtre de ce qu'on peut appeler les fédérations actuelles de l'islam en France. C'est ce que Naomi Davidson appelle des mosquées satellites. Donc
Il y en avait quelques-unes à ce moment-là.
Il y en avait quelques-unes à Saint-Étienne, par exemple. Mais par exemple, à Marseille ou à Nice, on a mis très très longtemps parce que Qadour Ben Rabrit avait posé son veto catégorique.
Parce que ça a échappé à sa mémise, à sa férule.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Dora Mamri Chambi, comment la vie finalement se poursuivait-elle sous la direction, je ne dis plus rectorat, de Sir Qadour Ben Rabrit, parce qu'il est décédé en 1954.
C'est ça.
En juin 54.
À 94 ans.
Une espérance de vie pour l'époque appréciable. Et parce qu'il y a eu des soubresauts, il y a eu d'abord le mouvement nationaliste algérien qui se voulait séparer plus ou moins des questions religieuses ou qui a islamisé les revendications, ou est-ce qu'il y avait une collusion entre le religieux et le politique?
Alors, je dirais qu'au départ, En tout cas, avec Mes Ali Hadj, finalement, la lutte indépendantiste, la lutte nationaliste était laïque, détachée de toute contingence religieuse. C'est à partir finalement de la création du FLN que l'on a associé étroitement la religion aux revendications nationalistes. Parce que l'objet, c'était de pouvoir aussi avoir des alliés dans cette lutte indépendantiste, notamment les réformistes musulmans de l'école de Ben Badis.
Oui, que nous avons
évoqué. Donc, par exemple, la consommation d'alcool était interdite dans les cafés, sous peine d'une correction. La consommation de cigarettes, les jeux de hasard. Or, toute la sociologie, en tout cas toute la société, la socialisation des musulmans résidant en France reposait sur la fréquentation du café, les jeux de hasard, finalement la consommation de boissons alcoolisées de temps en temps, étant donné que c'était des jeunes hommes ouvriers.
Mais et pourtant, le congrès de la Soumam voulait pour l'Algérie qui recouvrera son indépendance plutôt un État laïque et dans lequel les questions religieuses ne devaient pas intervenir dans l'administration de la cité. Là, on est avant 1954. Il y a un épisode qui est celui de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça n'a jamais été bien précisé et attesté par des chercheurs juifs en ce qui concerne le rôle de la Grande Mosquée de Paris dans le fait d'avoir sauvé des ressortissants juifs français.
Alors, ça a fait l'objet de films, de livres quand même assez romancés. Je dirais, alors en l'état actuel de mes recherches et avec l'aide de la lecture notamment d'un article très très intéressant de Jean Laloum qui explique que finalement Qadour Ben Rabrit n'a pas aidé dans une perspective générale les juifs lors de l'occupation nazie. En revanche, il a pu aider temporairement certains amis. Ce qu'on a vu, c'est que on a vu émerger les archives d'un imam qui s'appelait Mesli. Et Mesli, par contre, lui, a fait partie d'un réseau pour pouvoir fournir des fausses cartes ou des attestations. Mais il l'a fait vraiment à titre personnel. Qadour Ben Rabrit était au courant, ne l'a pas dénoncé aux autorités, donc aux nazis à l'époque, et avait pris quand même un grand risque. Mesli a été déporté. Mais en règle générale, la mosquée de Paris n'a pas œuvré dans la protection des juifs, bien au contraire. C'est-à-dire que Qadour Ben Rabrit, lorsqu'on lui demandait si telle ou telle personne pourrait être musulmane, parce que finalement les juifs séfarades avaient l'onomastique en tout cas se rapprochaient, mais il disait clairement cette personne n'est pas musulmane, sauf dans certains cas, donc Simon Al-Ali ou le beau-père de Philippe Bouvard. Voilà, c'est selon ses affinités en réalité qu'il apportait une aide. Alors je vais minorer en tout cas cette aide apportée par la mosquée de Paris durant la Seconde Guerre mondiale.
En tout cas, la Fondation pour la mémoire de la Shoah reste prudente et demande davantage d'investigation pour attester le rôle salvateur de la Grande Mosquée de Paris durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver des juifs, parce qu'on a avancé des nombres, on a même parlé de 1732. Et vous avez raison quand vous évoquez l'onomastique, il y a des noms patronymiques qui se ressemblent tout à fait, qui sont même les mêmes, les Haddad, les Albaz, les il y en a tellement, les Khalifa. Sinon, les fidèles venaient prier, il y avait du monde au moment des fêtes. Comment les choses se passaient-elles?
Alors, les fidèles musulmans, en tout cas résidant à Paris, ne venaient pas prier régulièrement à la mosquée, du moins accomplir toutes les prières rituelles. Ils venaient pendant les grandes fêtes religieuses, mais il y avait deux services finalement pendant les fêtes. Il y avait un service lié consacré aux diplomates et l'autre consacré aux fidèles. Les fidèles musulmans ne venaient pas parce que, en tout cas à partir des années 30, la mosquée de Paris était un bureau de contrôle également, au même titre que l'hôpital franco-musulman de Bobigny.
L'hôpital Avicenne.
Voilà. Et au même titre également que la brigade nord-africaine à Paris. Donc c'était un véritable lieu de contrôle. Donc les musulmans ne s'y rendaient pas fréquemment, à part pour pouvoir fêter certaines fêtes, l'Aïd.
Enfin, les fêtes
voilà,
principales.
Voilà, les fêtes principales. Et puis, pourquoi ne s'y rendait-il pas également ? Parce que c'était une mosquée située en dehors du Dar Islam. En dehors, finalement, si je peux traduire littéralement,
de la demeure de
l'islam. Et donc, et une mosquée financée un peu à contre-cœur par les indigènes, mais également une mosquée financée par un État qu'il considérait comme
oppresseur.
En tout cas oppresseur. Donc, la fréquentation de la mosquée se faisait rare, à part à partir des années 50, où là, finalement, avec le changement de direction de l'Institut, avec l'arrivée du neveu de Qadour Ben Rabrit, Ahmed Ben Rabrit, qui était plus lié au mouvement nationaliste. Ça, je l'ai retrouvé dans les archives. Donc, des prêches nationalistes avaient eu lieu à la mosquée de Paris. C'est la raison pour laquelle Ahmed Ben Rabrit n'a pas fait très long feu à la mosquée de Paris.
Alors, je ne sais pas si c'est vrai aussi ou pas, c'est Guy Mollet, c'est l'intervention directe de Guy Mollet pour le destituer, et c'est là où on a l'avènement de Hamza Boubacar.
Tout à fait, et je qualifierais cette intervention de Guy Mollet comme le fait du prince, finalement. Il n'avait pas à s'immiscer dans les affaires internes d'une association, ni nommer quiconque. À la direction de la mosquée de Paris, Ahmed Ben Rabrit n'avait pas non plus à diriger cette mosquée. Mais dans une période de... Alors c'était vraiment au début des troubles insurrectionnels en Algérie. Et là, toujours, ça rejoint la question de l'ordre public. Guy Mollet, président du Conseil et ministre de l'Intérieur dès l'époque, avait décidé de placer un homme, en tout cas lié aux autorités coloniales, Hamza Boubacar.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'islamologue Dorra Mamri Chanvi, qui est chercheuse associée au groupe Société, Religion et Laïcité du CNRS. En réalité, c'est l'École pratique des hautes études et le CNRS conjointement qui ont ce laboratoire. Groupe Société, Religion et Laïcité. Et nous parlons de l'histoire contemporaine de l'islam et de la France à travers une institution qui est la Grande Mosquée de Paris et même l'Institut islamique, l'Institut musulman de la Mosquée de Paris. La sémantique a son importance, oui. Mais c'est comme ça, c'est curieux qu'on a gardé l'IMMP. Maintenant, on l'appelle l'Institut Al-Ghazali, donc la question ne se pose plus. C'est l'Al-Ghazal des Latins, ce maître éponyme. Et c'est curieux aussi comme choix, mais j'arrête là mes points de vue. Après, donc, si on progresse, afin de comprendre, cette affaire de d'immixion de l'État dans l'organisation d'un culte n'est pas récente. Ça a toujours caractérisé, en tout cas tout au long du XXe siècle, les procédures entre l'administration et le culte islamique.
Ah, tout à fait. C'est pas du tout nouveau, aussi loin que l'on... Enfin, à partir du début de la colonisation, hein, dans les années 1830, c'est là où on a choisi, finalement, de s'ingérer dans les affaires du culte musulman, pour des raisons stratégiques, je le répète. Et finalement, c'est une forme de gallicanisme. C'est une intervention étatique poussée pour pouvoir arriver à un but précis. Je dirais qu'il n'y a pas eu un schème identique, en tout cas, sur tout le XXe siècle. Je dirais que l'État a oscillé entre abstentionnisme et interventionnisme, en tout cas en ce qui concerne les affaires du culte musulman. Mais elle ne s'est jamais désintéressée, contrairement.
J'ai lu sous votre plume que vous parlez de la sinusoïde de la position de l'État ou de la situation de l'État. Alors, tantôt, il y a un interventionnisme réel et tantôt une sorte d'indifférence.
Oui, alors je dirais, je parlerai de paradigme indifférentiste, mais c'est pas une réelle indifférence en tout cas. C'est le propre de l'historien d'aller consulter les notes d'archives, et à aucun moment de l'histoire, même après la colonisation, l'État s'est désintéressé du culte musulman. C'est juste que la polarisation médiatique était moins forte, donc on s'en rendait moins compte. Et puis, finalement, les démonstrations d'orthopraxie étaient également moins fortes. Mais l'État s'est toujours intéressé à l'islam, parce que il faut pas oublier que la France n'est pas toute seule, et on est dans un cadre international, mondial, et la géopolitique avait son importance. Donc, rien que pour des raisons, des considérations de politique étrangère, l'État ne s'est jamais désintéressé du culte musulman.
Et comment était financée la Grande Mosquée de Paris et, d'une manière générale, le culte islamique en France dans les années 50 et après? Parce que, est-ce que c'est toujours la société des Habous? Et est-ce qu'on continuait à donner de l'argent et à abonder la dite société, ou est-ce qu'il y avait d'autres moyens pour financer, ne serait-ce que le fonctionnement de la mosquée de Paris et d'autres lieux de culte?
Donc, l'État a versé jusqu'en 1981 des sommes à l'Institut musulman de la Mosquée de Paris, la plupart, finalement, de l'actif de la mosquée. À partir de 1980, lorsqu'il y a eu des soucis politiques avec le nouveau parti socialiste qui émergeait, on a arrêté de financer cette mosquée. En revanche...
Sous quel prétexte? C'est parce qu'on finançait l'Institut et via la dite loi 1901, ou est-ce qu'il y avait encore un autre subterfuge?
On finançait l'Institut via la loi de 1901, c'est-à-dire que des rapports d'activité étaient sans cesse envoyés, et l'État disait « non, moi je finance le côté social, je ne finance pas le côté religieux ». Mais comme il n'y avait pas deux associations qui géraient cet institut, donc il était difficile de vérifier finalement l'usage des fonds octroyés par l'État. Et alors le reste des revenus de la mosquée provenait du hammam, du salon de thé et des visites, de la vente de cartes postales, c'était pas finalement des fonds suffisants. Mais pendant la période coloniale, de toute façon, les agents du culte étaient rémunérés par l'État. par les gouvernements
aussi
généraux,
bien en métropole,
aussi bien en métropole que et c'est là la question de la laïcité, c'est là que ça se pose. On se dit bon, finalement, de quel droit l'État en métropole, sous l'empire finalement de la loi de 1905, pouvait financer des agents du culte. Et ça, ça a été la grande problématique à laquelle, en tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse.
Donc cette situation, en dépit du droit, en oui. tout cas, a perduré jusqu'à l'avènement de la gauche, comme on dit simplement, en 1981. Et ça a été encore un point supplémentaire dans le caractère complexe de la gestion du culte islamique en France.
Oh oui, ça a été compliqué parce que finalement, les années 80 ont vu, enfin, un peu au milieu des années 80, on a vu l'émergence d'un pluralisme. La mosquée de Paris n'était plus seule à gérer l'islam en France. On a vu émerger d'autres mouvements, d'autres associations se réclamant d'autres pays. C'est-à-dire que l'islam en France s'est internationalisé. Il ne concernait plus non seulement l'Algérie, mais d'autres pays ont émergé. Donc la mosquée de Paris, se sentant délaissée, le financement arrêté, l'octroi finalement de la direction de l'Institut en 1982 à l'Algérie, puis la présidence de la société en 1987, si je ne m'abuse, a fait que l'Algérie est devenue finalement le bailleur de fonds de la mosquée de Paris. Et le pluralisme a mis en place dans ce que j'appelle le PIF, le paysage islamique français, des convertis à l'islam qui se sont réunis, en tout cas en association. Au départ, c'était la FNMF, la Fédération Nationale des Musulmans de France. Il y avait la mosquée de Paris, puis ensuite les Marocains. Il y avait tout le réseau d'amicales également, donc Algériens, Marocains, pas de Tunisiens, et des Turcs. Donc c'était les principaux bailleurs de fonds de l'islam en France. La mosquée de Paris s'est retrouvée confrontée à un pluralisme au niveau de la pratique religieuse, parce que la mosquée de Paris était quand même garante d'un islam néo-traditionnel, contrairement à d'autres mouvements.
Bien, on approche avec ça de l'idée de ce qu'on appelle l'islam consulaire, mm-hmm. qui nécessite aussi un long développement, mais on ne le fera pas aujourd'hui puisque nous arrivons au terme de notre émission. Merci infiniment, Dora Mamri Chanbi, de nous avoir éclairé sur cette histoire, en tout cas contrastée, méconnue, de la Grande Mosquée de Paris en France et ses répercussions quant à la pratique cultuelle islamique en France. Je rappelle que vous êtes islamologue et chercheuse associée au groupe Société, Religion et Laïcité, partagé entre l'École pratique des hautes études et le CNRS. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son était assurée aujourd'hui par Lydvine Caron et la réalisation est assumée par Franck Lilin. Thank you.